Allons retrouver celle qui est avec nous généralement les lundis, Jessie Saint-Cyr du Bureau d'éthique commerciale. Hier, on n'a pas pu l'avoir. Mais d'abord, premièrement, bonjour Jessie. Et deuxièmement, comment vas-tu?
Ça va mieux, merci. Ouais, okay. Le rhume, hein? Après la COVID, c'est tous les autres virus qui recommencent à prendre le dessus. Donc, j'y suis passée, mais ce matin, ça va mieux. Merci beaucoup.
Bien, content de l'apprendre. On était inquiet pour toi. Là. On se disait, j'espère que Jessie va bien. Mais au moins, c'est confirmé. On peut rayer ça de la liste de nos préoccupations. Là. Tout va pour le mieux. Tu te remets. Parfait.
Absolument,
bon,
oui.
Bon, d'abord, on va parler aujourd'hui, dans le cadre de ta chronique, de fraude qui touche cette fois les commerçants, les entreprises. Parce que d'habitude, quand on parle de fraude, on va parler plus des consommateurs en général. Mais c'est vrai que les entreprises peuvent être la cible de fraudeurs. Et pour que les entreprises évitent les arnaques, ben Jessie, tu vas avoir de bons conseils à nous donner. Puis encore une fois, on va pouvoir permettre aux propriétaires d'entreprises d'en éviter de ces arnaques parce que ça fait perdre beaucoup d'argent là, au cours de la fraude, des fraudes en fait en 2020.
Absolument. L'année dernière, les entrepreneurs canadiens ont déclaré des pertes avoisinant 25 millions de dollars. C'est énorme. Et sur ces 25 millions de dollars-là, 11 millions ont été perdus dus à l'harponnage. Et là, je ne parle pas ici de pêche. L'harponnage, okay, c'est un terme qu'on utilise pour une sorte de vol d'identité qui est vraiment dirigé vers les entrepreneurs. Donc, c'est l'une des cyberattaques les plus courantes et les plus dangereuses qui est employée présentement pour frauder les entreprises et les organisations. Donc, le fraudeur va vraiment prendre le temps d'aller recueillir des informations, des renseignements précis sur leur cible pour pouvoir être capable d'envoyer des courriels qui sont vraiment convaincants et qui semblent provenir d'une source fiable ou de quelqu'un qu'on connaît. Donc, ils vont réussir à s'infiltrer dans le compte courriel d'une entreprise. Ils vont étudier le nom des gens qui travaillent, de tous les collègues, le niveau de langue qui est utilisé, qui est caractéristique aux personnes, des dates, des paiements, etc. Donc, ce qui peut arriver, par exemple, dans ce cas-ci, c'est que le fraudeur pourrait envoyer un courriel au comptable et le comptable pourrait penser vraiment que ça vient du directeur ou du PDG, puis on lui demande de faire un paiement urgent pour conclure une entente privée. Ce qu'on suggère en ce moment-là, c'est vraiment de... Il faut que tous les employés soient au courant de cette tactique-là puis de ne jamais prendre une décision ou de faire un transfert d'argent rapide. On contacte toujours la personne concernée avant de faire un paiement.
Hey, oui, mais tu fais bien de le mentionner. Puis là, ça, c'était bon. Tu parlais de harponnage. Il y a aussi, ce qu'on entend souvent, c'est l'extorsion. Ça, c'est un peu comme des menaces qu'on va faire, là, un peu de chantage.
Absolument, oui. Des menaces, de la pression, l'extorsion, comme on dit en anglais, du blackmailing. On obtient de l'argent illégalement en mettant de la pression ou en faisant des menaces. Par exemple, ça pourrait être Hydro-Québec qui appelle un de vos employés et qui dit « Écoutez, on a besoin d'un paiement immédiatement, sinon on coupe le courant. » Ça, c'est une forme d'extorsion que certains entrepreneurs peuvent voir. Sinon, une autre sorte d'extorsion qui est assez courante, c'est les rançons judiciaires. Donc, c'est conçu pour infecter ou pour bloquer l'accès à votre système ou à vos données. Et ensuite, évidemment, là, si vous allez cliquer sur un lien malveillant, malheureusement, une pièce jointe, bien là, toutes vos données vont être cryptées, puis on va vous demander de l'argent pour pouvoir avoir accès à ces données-là. Donc, dans ce temps-là, idéalement, si on est capable, on ferme tous les systèmes puis on appelle un technicien informatique de la région pour avoir de l'aide.
Les entreprises peuvent aussi recevoir des fausses factures. Des fois, on va facturer là, un service qu'elles n'ont jamais accepté, mais souvent, dans les grandes entreprises, ça peut peut-être passer entre deux factures ici et là, puis on ne garde pas nécessairement de façon très attentionnée chacune des factures, puis des fois, ça peut passer.
Exact. Que ce soit pour un annuaire, exemple, les pages jaunes, hein, les fraudeurs vont souvent utiliser des noms connus comme ça. On a reçu beaucoup de rapports par rapport à ça. Là. Donc, les factures, les fournitures de bureaux. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on suggère, c'est vraiment d'avoir une liste de fournisseurs avec les données, mais dire aux employés de ne jamais donner d'informations s'ils n'ont pas contacté eux-mêmes l'entreprise. Donc, si quelqu'un appelle, puis appelle pour confirmer l'adresse, le numéro de téléphone, des renseignements au sujet du matériel de bureau, exemple, une marque ou un modèle d'imprimante, on s'assure de dire à nos employés de ne pas répondre à ces questions-là, à moins que ce soit des gens à moins que ce soit eux qui aient eux-mêmes appelé là, l'entreprise.
Il faudrait défaire un mythe aussi, Jesse, en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui vont penser que peut-être, vu que ils ont une petite ou encore une moyenne entreprise, les fraudeurs s'y intéresseront pas, mais c'est pas nécessairement le cas.
Non, c'est vraiment, malheureusement, ce n'est pas vrai. L'année passée, il y a environ une PME canadienne sur quatre qui a déclaré avoir été touchée par des tentatives de cyberattaque de piratage ou d'avoir, comme évidemment, là, pour voler des sous, des données informatiques et tout.
Aïe.
Donc, sur ces 25 %-là, il y a 5 % qui ont rapporté que le stratagème de cyberfraudeur a fonctionné. Il y a aussi, dans 29 % des cas de ceux qui ont déclaré là, des tentatives de fraude, c'est des employés ou des responsables qui sont tombés dans le panneau d'une arnaque, soit d'un courriel, d'une tentative d'hameçonnage, de faux fournisseurs. Et là-dessus, je vous dirais là, que sur 20 % des attaques qui ont fonctionné, il y a à peu près une victime sur deux pour qui ça a entraîné des pertes financières. Puis on parle de milliers de dollars quand ça arrive, malheureusement.
Et là, avec tout ce que tu nous racontes, on ne veut pas faire peur aux gens parce qu'en même temps, tu es là pour ça. Il y a moyen de prendre des mesures pour éviter que les propriétaires d'entreprises aient des fraudes comme celles qu'on a énumérées.
Absolument. Le but, c'est vraiment pas de faire peur ou d'être négatif. La meilleure façon de se protéger contre la fraude, c'est d'être au courant que ça arrive, comment ça se passe, puis comment reconnaître les drapeaux rouges. La première chose, c'est d'offrir des formations à vos employés. Vos employés que vous avez actuellement, mais tous les nouveaux employés également, pour qu'ils puissent détecter et prévenir la fraude. On discute également là, de renseignements quand on fait des réunions d'employés. Donc, on s'assure évidemment que, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, qu'il y a une liste de fournisseurs, surtout pour ceux qui vont payer des factures, mais aussi de choisir un petit groupe restreint d'employés qui peuvent payer des fournisseurs, des choses comme ça. On invite aussi à mettre vraiment des procédures claires pour vérifier que chaque facture est légitime. On avise nos employés de ne pas donner de l'information. On fait attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. On a juste à penser à nos pages Facebook, nos pages LinkedIn. Il y a beaucoup de renseignements qui sont disponibles au public qui peuvent donner un petit peu plus d'outils aux fraudeurs pour cibler votre entreprise. Évidemment, on investit aussi dans des systèmes de sécurité pour protéger nos ordinateurs, les appareils mobiles de travail. On met à jour nos logiciels de sécurité et on change nos mots de passe le plus souvent possible, mais aussi pour éviter les rançons judiciaires, comme on dit. C'est important de sauvegarder nos données régulièrement. Donc, on fait des sauvegardes hors du bureau et hors du réseau.
Hey, c'était super pertinent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui, Jessie, dans le cadre de ta chronique. Puis, je pense qu'on a rendu service à bien des entrepreneurs aujourd'hui.
Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi
c'est
ce
bon.
Matin.
On remet ça lundi prochain?
Ça marche, absolument.
Excellent. C'est bon, 8h10. Jessie Saint-Cyr du Bureau d'éthique commerciale qui est toujours avec nous. D'habitude, du lundi, mais aujourd'hui, c'était mardi. C'était exceptionnel. Alors, ben, manquez pas ça. Toujours très, très pertinent comme chronique avec des renseignements qui sont vraiment utiles pour bien des gens, les consommateurs comme les propriétaires d'entreprises, comme ça a été le cas ce matin.